Au quotidien, avec Hélène Denis.
Déjà jeudi, celui du 5 juin 2025, chaude sera la journée, pour paraphraser Desjardins. Mais moins qu'hier, on prévoit un maximum de 24 dans la région métropolitaine, humidex 30 degrés. 30 degrés, on est capable d'en prendre.
Hein? Oh mon Dieu, oui.
Oui, moi quand ça commence à pointer le 35, 40, là c'est vraiment inconfortable. Mais 30 degrés, il me semble qu'on est capable de,
il va pleuter,
de l'accepter. Oui, il va pleuter. Il y a de la pluie, il y a de l'orage dans l'air également. Risque d'averse et d'orage à 60 %. 60, c'est quand même assez élevé. La bonne nouvelle, c'est que la fin de semaine s'annonce agréable, belle, surtout dimanche. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une belle fin de semaine où on peut en profiter pleinement. Alors, ce sera le cas, paraît-il, en fin de semaine.
Le barbecue va se faire aller.
Oui, c'est dans vos projets, Yvan?
J'ai pas de projet pour l'instant, mais dans les circonstances, le barbecue devrait se faire.
Oui, c'est tellement bon, hein, des grillades ou n'importe quoi là-dessus. Mm-hmm. Yvan, le roi des protéines, je ne sais pas si c'est vous, mais vous allez nous en parler, vous allez nous expliquer les protéines.
C'est assez ironique que j'explique des protéines. Oui. Si Marie Lalande m'écoute, elle doit rire.
Marie Lalande, c'est qui?
C'est ma conjointe.
Ben oui, je sais bien.
Parce
qu'il y a toujours une nouvelle personne qui nous écoute, alors il faut mettre les gens au courant.
Ah, il y a souvent Marie Lalande qui nous écoute.
Ah oui, oui, ça c'est sûr. Marie est à l'écoute, on la salue, mais je parle d'auditeurs nouveaux.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais elle me dit souvent, le repas que tu suggères, il n'y a pas de protéines dedans. Puis là, il y a un grand point d'interrogation qui m'arrive dans le visage en me disant...
De quoi elle parle?
De qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Ouais. Alors, je vais vous parler des protéines.
Et pourtant, c'est pas compliqué, quand on le sait.
C'est pas compliqué, puis il y a un petit côté important pour quelqu'un comme moi. Les personnes âgées ont besoin de protéines.
Oui. Hey, je m'excuse de ma réaction, là, parce que...
J'arrête pas d'en parler.
Non, mais je vous regarde, vous avez l'air d'un petit gars. J'ai la misère à faire l'association avec un aîné et Yvan Deslauriers.
Je m'approche du 7-0.
Oui, vous allez avoir 7 ans bientôt.
Ouais. Non,
avec 60, un 0, c'est
vrai. 69 dans quelques jours. Mais...
Oui, c'est le 19, hein, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Ah, ça s'en vient.
Yeah.
Dans 14 jours, si mon calcul est bon. Oui,
je vais être ici.
Oui. Monique Kerouac, bonjour Monique.
Bonjour.
Monique, vous êtes sortie récemment, vous êtes allée voir, mais on parle des aînés, elle c'en est une, mais on dirait que c'est une petite fille là, sur la scène, Louise Le Cavalier.
Oui, c'est ça, 66 ans. Elle bouge pendant une heure sans arrêt, sur le bout de ses pieds, à reculons, avec des gestes saccadés. Vraiment, je recommande à tout le monde de voir ce spectacle, Danse vagabonde. Elle vagabonde sur la scène, oui. Mais faut aimer ce type de danse,
oui,
bien sûr. C'est de la danse contemporaine.
Oui.
Alors, parfois, ça nous déstabilise. Mais ce n'est pas mon sujet.
Non, mais juste une petite parenthèse, Louise Le Cavalier, parce que vous parlez de son spectacle, ceux qui ne peuvent pas le voir dans le cadre du FTA, je pense que c'est déjà terminé. Le FTA finit aujourd'hui, mais il y aura d'autres représentations, alors on aura l'occasion d'en reparler. Ce sera un peu plus tard, je pense que ça sera à l'automne prochain. Oui, vous allez nous parler de la musique.
Ben oui, vous aimez tellement la musique, Hélène, n'est-ce pas?
Ah, oui. Sans la musique, la vie serait une erreur. C'est pas moi qui l'ai dit, là, mais c'est vrai.
Ah oui, totalement. Chez nous, il y a toujours de la musique. Même quand on quitte la maison, on laisse de la musique à la maison. Alors.
Pour faire peur aux voleurs?
Ouais, bon, même
non,
pas,
pour qu'il y ait du bon temps.
Bon, non, mais quand ils s'en vont?
Pour faire plaisir à la maison.
Ah, d'accord.
Pour les plantes.
C'est feng shui, tout ça.
Oui, c'est ça. Alors, oui, en fait, c'est un article qui a été publié dans UDM Nouvelles et on y relate, en fait, il y a eu une conférence, conférence sur la montagne, et mettant en vedette Alexandra Strelitzky, que tout le monde connaît.
La pianiste.
Mais également Isabelle Peretz, qui est une spécialiste du cerveau musical. Alors, je pense qu'elle nous explique les deux à leur manière, un peu plus pourquoi la musique nous touche et aussi, ce qui est très important, l'effet que la musique peut avoir lorsqu'on vit des choses difficiles, douloureuses, même en situation, par exemple, de cancer ou de stress.
Elle nous accompagne merveilleusement bien la plupart du temps.
Oui.
Cerveau musical, j'ai hâte d'entendre, d'en entendre davantage. Je sais qu'il y a, c'est un ancien journaliste scientifique à Radio-Canada qui avait écrit un livre sur le pouvoir de la musique liée au cerveau, là.
Oui, oui, tout à fait.
Michel Rochon.
Il y a même eu un documentaire il y a quelques années qui a été fait par Isabelle Reynaud, aussi de professeur à l'Université de Montréal, mettant en vedette, entre autres, Isabelle Pérez, parce que oui, les études démontrent qu'il y a un effet très positif sur le cerveau.
On la croit, et c'est Michel Rochon dont je parlais, je pense que je l'ai mentionné, qui a écrit un livre sur le pouvoir de la musique, le cerveau et la musique. Il y a même des capsules éclairs qui sont disponibles sur Internet. Alors, merci Monique, merci Yvan. On aura aussi la chronique de M. Dominique Tremblay, qui viendra nous parler du Comité international paralympique qui a annoncé le nombre de médailles qui seront décernées lors des Jeux paralympiques de Los Angeles, entre autres sujets. Il y aura aussi une petite nouvelle de goalball. Il nous parlera des championnats du monde de para-hockey. En fait, il fera un retour, puisque ça s'est déroulé récemment, dernièrement. Et Julien Caillouette sera là pour des nouvelles du Canada francophone. Julien qui s'est intéressé notamment au Galatri Or qui a eu lieu la semaine dernière, et on écoutera des chansons d'artistes qui ont remporté des honneurs lors de ce gala-là. Et on commence avec une chanson qui va certainement vous faire bouger si vous êtes en voiture ou n'importe où. C'est Elton et Britney qui nous l'offrent.
Oh, Hold Me Closer, Elton John et Britney Spears.
Britney Spears. À la une de la presse plus, coupe massive. Les 2000 travailleurs de Rémabec, un des plus importants entrepreneurs forestiers au Québec, perdront leur gagne-pain pour une durée indéterminée. À la suite d'une vague de mise à pied, l'incertitude liée à la guerre commerciale menée par Washington n'y serait pas étrangère, c'est à lire dans la presse sous les plumes de Mégane Foy, Charles Cavalier et Julien Arsenault. À la une, toujours de la presse plus, on l'a appris hier, Marc Garneau, la mort d'un pionnier. C'est le premier astronaute canadien à aller dans l'espace en 1984 à bord de la navette Challenger. Marc Garneau, ex-ministre des Affaires étrangères et des Transports dans le gouvernement de Justin Trudeau, s'est éteint mercredi à l'âge de 76 ans, emporté par un cancer. Alors, on offre nos condoléances à toute sa famille, tous ses proches, tous ses admirateurs et admiratrices. Cote d'écoute, onde de choc à la radio. Ici Première double le, le 98.5 FM et Patrick Masbourian domine le palmarès. Alors, on lui dit toutes nos félicitations. C'est vraiment exceptionnel. C'est historique parce que ça faisait longtemps que le roi des ondes était Paul Arcan qui a été remplacé, si je peux dire. En tout cas, c'est Patrick Lagacé maintenant qui anime l'émission du matin. Et puis là, Patrick Masbourian a pris les devants. Dans le Journal de Montréal, à la une, des Américains s'ennuient de nous, baisse du tourisme chez eux. Bienvenue aux Québécois et Canadiens. Oui, on sort les pancartes et on essaie de séduire les Canadiens et les Québécois qui ne veulent pas vraiment aller aux États-Unis par les temps qui courent. Et puis à la une du Devoir, maison de disques, les pratiques d'Ad Litteram dénoncées. L'étiquette est montrée du doigt par une douzaine d'artistes pour son manque de transparence et ses défauts de paiement. On a aussi une très belle photo de Marc Garneau, l'astronaute canadien, lors de son premier vol spatial en octobre 1984 à bord de la navette Challenger. Le dernier envol de Marc Garneau, l'ancien ministre et astronaute, est décédé mercredi. Et on parle aussi du théâtre à la télé. George Clooney quitte Broadway sur une diffusion en direct de sa pièce Good Night and Good Luck. L'événement fera date. La chaîne américaine CNN va diffuser samedi soir une captation en direct de la pièce mettant en vedette George Clooney et Grant Heslov, présentée depuis quelques mois sur Broadway à New York. L'exceptionnel relais en direct de la production théâtrale par le réseau d'information continue s'explique en partie par son sujet traitant de la paranoïa du pouvoir et de la propagande étatique, mais aussi, bien sûr, par la présence de M. Clooney, méga vedette hollywoodienne, opposition libérale, anti-trumpiste, bien connue. Irrésistible musique signée Henry Mancini, compositeur de musique de film.
Oui, oui, c'est ça.
Extraordinaire.
Je pensais que c'était une introduction à un James Bond ou quelque chose genre.
Ah
c'est pas ça,
oui, il y a quelque chose de James Bond.
Il n'a pas fait les Pink Panther, lui.
Oui, on vous le confirme.
D'accord.
Alors, allez-y donc avec vos protéines expliquées.
Oui. Oui, oui, c'est vraiment un contre-emploi que je fais aujourd'hui. Quoique la nutrition m'intéresse beaucoup, je fais beaucoup la popote à la maison, pas tout seul, mais je fais beaucoup la popote à la maison.
Et vous êtes aussi préposé au barbecue.
Oui, et tout récemment, au air fryer.
Ah oui?
Oui, oui. Bien, vous savez, j'ai
eu... adepte.
Bien, j'ai eu un problème de santé dernièrement. Mm-hmm. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je mange.
Puis donc, le air fryer va vous aider?
Oui, parce que on fait la cuisson avec beaucoup moins de gras.
Ah oui.
Et on peut tricher, parce qu'on peut faire des frites là-dedans.
Des frites
Très grasses.
Non, on met moins de sel, puis
oui, c'est ça.
Enfin, on savoure la patate.
Oui, on peut mettre du paprika. On peut mettre du paprika.
Oui, c'est joli.
Ça remplace pas le sel.
Non,
mais
ça donne du goût quand même.
Oui. Alors, je vais vous parler de bouffe et d'exercice, mais surtout de bouffe. Ça commence, puis je vais jongler avec trois articles parce que vous m'en avez fourni quelques-uns sur le sujet. Donc, je commence avec un article de Catherine Enfield dans la presse du 24 mai. Ça s'intitule « Les protéines expliquées ». Je me suis senti visé là-dedans. Et ça dit « Il faut se fier aux réseaux sociaux, les protéines sont... » S'il faut se fier aux réseaux sociaux, les protéines sont synonymes de santé, de muscles et de minceur. Et il faut en manger plus et encore plus dans les aliments et en suppléments. La science de la nutrition est beaucoup plus nuancée. C'est ce que je vais essayer de faire ressortir dans ma chronique de ce matin. Nous explique les nutritionnistes. Explication en 8 points. En fait, je vais le faire en 7 points parce que le premier, je vais le sauter.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion au premier. C'est un état de fait.
Ah.
Ça dit que on peut trouver des choses sur TikTok, sur Instagram, tout ça. C'est vraiment « in ». La protéine. Oui, aïe, aïe, ça a été facile.
Ah non, mais je l'ai trouvé drôle.
D'accord, bravo. Faut-il vraiment en manger davantage des protéines? Un groupe est un peu plus à risque que les autres d'en manquer. Ce seraient les femmes de 70 ans et plus. Mais dans un autre article que j'ai lu, dont je vais vous parler aussi tantôt, c'est plutôt les personnes âgées en général, parce qu'on mange moins à un certain âge. On a l'appétit plus difficile, on a la difficulté à
mais
mastiquer.
À 70 ans, on est considéré comme une personne âgée?
Je ne répondrai pas à ça.
Non, mais c'est parce que vous dites que c'est plutôt les personnes âgées.
Oui, oui,
c'est
oui.
Comme si vous contredisiez ce qu'elle dit, mais elle a raison.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est parce qu'elle mettait l'accent sur les femmes de 70 ans et plus.
Ah, d'accord.
Et
c'est...
j'élargissais.
Je comprends.
Environ 10 % d'entre elles, c'est pas énorme quand même, n'en consomment pas assez selon l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2015. Mais généralement, les Canadiens consomment suffisamment de protéines, indique Sophie Desroches, qui est professeure de nutrition à l'Université Laval. C'est ce que montrent les données de l'enquête, de l'enquête sur la santé et les collectivités canadiennes en 2015. Mais ça doit être, ça, c'est le genre de choses qui doivent être assez stables, j'imagine. Dans les autres groupes d'âge, la proportion des gens qui en manquent est négligeable. Sans faire d'efforts, les gens mangent déjà beaucoup de protéines, selon Roxane Papineau, qui est nutritionniste en néphrologie. Donc, les reins. 0,8 grammes par kilo, ce sont les protéines qui sont nécessaires, selon la science, pour pouvoir fonctionner adéquatement. Les protéines sont des nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. C'est considéré comme les briques de construction du corps. Elles jouent un rôle fondamental dans la formation et la réparation des tissus. Les grandes organisations de santé recommandent aux adultes de consommer quotidiennement 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Là, je vous vois, là, vous faites des calculs dans votre tête.
Un exemple.
Une personne de 68 kilos, c'est-à-dire 150 livres, ça représenterait 54 grammes par jour. Un filet de poulet, gros comme la paume d'une main, c'est pas énorme, là, en procure entre 25 et 30.
Ah, ça monte vite quand même.
Oui, oui, oui. Une demi-tasse de pois chiche cuit contient 6 grammes de protéines et 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide, 8 grammes. Déjà, si vous, dans votre déjeuner, si vous tartinez vos
rôtis, nos toasts.
C'est, vous lisez dans, dans mes pensées. De beurre d'arachide, déjà. Puis on suggère effectivement d'essayer de répandre...
Répartir.
Répartir, oui, plutôt. Hein. Mmh.
Répandre notre beurre de peanut, peut-être.
Peut-être. La consommation des protéines sur les trois repas de la journée. Et même peut-être faire des collations. Je vous dis un petit secret. À partir de 40 ans environ, des organismes suggèrent des quantités un peu plus élevées parce que le corps est un peu moins efficace pour faire de la synthèse musculaire. On parle plutôt de 1 à 1,2 grammes par kilogramme. Et un autre petit scoop, si on fait de l'exercice physique, les muscles sont plus aptes à absorber la protéine, donc on n'a pas besoin d'en prendre d'autant plus.
C'est un bon combo.
Oui. Sur les réseaux sociaux, des coachs, tant en musculation qu'en perte de poids, recommandent des apports supérieurs. On parle souvent d'un gramme par livre de poids corporel, soit 2,2 grammes par kilo. Les sportifs doivent-ils en prendre plus? Oui, mais peut-être pas autant. Avec 2,2 grammes par kilo, on est dans la limite supérieure, indique Ève Crépeau, qui est nutritionniste du sport à l'Université de Montréal. Chez les sportifs, dit-elle, l'apport en protéines varie environ de 1,4 grammes pour les sports d'endurance à 2 grammes pour les sports de puissance et de gains musculaires. Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'au-delà de 1,6 grammes par kilo, il n'y a pas vraiment d'effet bénéfique additionnel en termes de synthèse musculaire. Et vous m'avez fourni un article qui semblait même dire que ça peut être...
Nocif.
Oui, une pression au niveau des reins pour éliminer les substances qui ne
sont... Qu'on prend en trop.
Oui, c'est ça. Alors, puis effectivement, quand on vieillit, je pense que toutes ces choses-là deviennent assez cruciales. Ève Crépeau, dont je viens de parler, a accompagné divers athlètes de plusieurs niveaux et plusieurs sports, et rares sont ceux qui manquent de protéines, dit-elle, bien que cette crainte soit fréquente. Ils sont plus souvent au-delà de leurs besoins, constate-t-elle. Ce qui manque systématiquement à leur alimentation, ce sont plutôt les glucides, des sucres.
Un nutriment... Il y en a qui vont être contents.
Oui, c'est ça. Quand j'ai dit ça, j'avais un grand sourire. Dont le corps a absolument besoin pour faire de l'exercice intense. D'ailleurs, le sucre, ça fournit une énergie immédiate, mais qui ne dure pas très longtemps. Et ça affecte beaucoup leur performance, beaucoup plus que les protéines, dit-elle. Dans la population générale, les glucides devraient représenter de 45 à 60 % de l'apport énergétique total et les protéines de 10 à 35 %. Chez un sportif d'endurance, les besoins en glucides peuvent être trois fois supérieurs à ceux de la population générale, souligne-t-elle. Maintenant, d'où vient l'idée de consommer des doses élevées de protéines pour maigrir, diffusée par de nombreux influenceurs et influenceuses? Des études ont montré qu'à court terme, chez les athlètes en déficit énergétique, un apport de 2,3 grammes de protéines, donc c'est énorme, on a vu que c'était autour de 0,8, 1,2 de protéines par kilo, semblait aider à maintenir la masse musculaire. Selon Bernard Lavallée, qui est nutritionniste, il dit « Le message qu'on envoie, c'est « ton corps est inadéquat parce qu'il est trop gros ou pas assez musclé. » C'est extrêmement dommageable d'être exposé à ces messages-là. Qui plus est, aucun nutriment à lui seul ne fait grossir les muscles ou maigrir, rappelle-t-il. Soit les protéines contribuent à prolonger l'effet de satiété, mais c'est aussi le cas du gras et des fibres alimentaires. Donc, l'assiette équilibrée est aussi un potentiel rassasiant important. Puis, de nombreuses lectures que j'ai faites dans les dernières années montrent que c'est beaucoup plus les habitudes de vie qui font qu'on maintient un poids qu'on considère correct pour nous, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Quelles protéines on doit utiliser davantage si l'apport insuffisant en protéines n'est pas vraiment un enjeu de société? La source des protéines en est un, qui intéresse beaucoup la communauté scientifique. Les deux tiers des protéines consommées par les Canadiens proviennent de sources animales, selon l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Les premiers contributeurs demeurent la viande rouge, est transformé. 22% de l'apport en protéines des Canadiens. Et le poulet et les œufs, 20% qui trônent loin devant les noix, les graines et les légumineuses, qui sont de 5% seulement. Sur les réseaux sociaux, les protéines végétales sont bien peu représentées en comparaison des protéines animales, le poulet et les œufs surtout, et même des aliments enrichis et poudres de protéines. Puis là, on va découvrir quelque chose qui s'appelle la whey, W-H-E-Y, ou protéines de lactosérum en poudre. Ça semble cartonner à ce moment-ci. Moi, je ne suis pas du côté du cartonnage, je ne le sais pas. L'industrie capitalise sur cette tendance-là pour nous vendre un paquet d'aliments souvent ultra transformés ou même des suppléments XYZ de protéines. Et elle utilise cette aura de santé des protéines pour nous faire croire que leur aliment est meilleur pour la santé. Aux athlètes qu'elle accompagne, Eve Crépeau suggère de puiser leurs protéines dans des aliments complets plutôt que les suppléments. C'est rare qu'elle en recommande, mais elle ne les diabolise pas non plus. L'avantage, c'est le côté pratique. On peut consommer rapidement après l'entraînement et on a besoin de protéines. Mais la whey est-elle vraiment nécessaire? Vraiment pas. Est-ce que tout produit enrichi est inutile? Non. Les nutritionnistes donnent l'exemple de la boisson nutritive, appréciée par les personnes âgées en manque d'appétit, ou encore du pain à la farine de légumineuses qui peut enrichir le grilled cheese du soir. Mais attention, contrairement à ce que l'industrie prétend, un aliment enrichi n'est pas nécessairement santé. Des croustilles enrichies, des chips, enrichies en protéines, ça ne va pas les rendre soudainement super nourrissantes.
C'est Amélie Loisel qui dit ça. Elle est étudiante au doctorat en nutrition à l'Université Laval.
Exactement. Alors...
Vous confirmez.
Je confirme. Il y a deux autres articles que j'ai utilisés, puis je vois le temps qui file, donc je vais juste vous en parler. Il y a un article dans l'actualité qui est du 6 mai, qui a été écrit par Clémence Desjardins, qui parle justement du lien entre la consommation des protéines et l'âge, consommer des protéines en vieillissant. Ça fait mention, entre autres, que les viandes rouges qui fournissent beaucoup de protéines sont aussi très grasses. Et ça a des effets sur le cœur.
Ça dépend de la viande rouge.
Oui, mais ma nutritionniste me dit des animaux à quatre pattes, t'en manges une fois ou deux.
Ben moi, j'ai eu une fois ou deux semaines.
J'ai eu un problème cardiaque.
Oui, oui, oui.
Donc, une fois ou deux semaines. Donc, moi, je mange beaucoup plus de poulet, de volaille, d'œufs, etc. Mm-hmm. Et beaucoup de légumineuses. Et.
Je vous reviendrai en bref. Oui, certainement, parce que vous aurez cette place-là dans la prochaine demi-heure.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui m'entiraille, le palais des autres jours. Des taxis pour les galaxies et mon tapis. ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destins en opposant, et qu'est-ce qu'on en retient?
Pianiste Alexandra Strelitzky pour introduire, présenter le sujet de chronique de Monique Kirouac, le pouvoir de la musique.
Exactement. Alors, le 7 mai dernier, la 11e conférence de la montagne de l'Université de Montréal a réuni, Hélène, à la salle Bourget, un public curieux autour des questions suivantes. À quoi sert la musique? Pourquoi nous fait-elle vibrer? Pour y répondre, bien, Alexandra Strelitzky, pianiste au succès retentissant, comme on le sait, et Isabelle Peretz, professeure en psychologie à l'Université de Montréal et co-titulaire de la chaire Casavant en neuropsychologie et cognition musicale, ont présenté leurs perspectives. Alors, cette soirée, animée par Catherine Perrin, ben, la conversation a navigué entre expériences artistiques et découvertes scientifiques, éclairant les multiples facettes du pouvoir de la musique. D'ailleurs, si vous voulez, vous avez accès à cette conférence sur YouTube. En faisant Pouvoir de la musique, vous allez repérer ça.
Merci de l'information.
Alors, Oui, c'est une conférence qui dure quand même 1h29. Donc,
l'avez-vous regardé? Y avez-vous assisté?
Non, je n'ai pas regardé. Non.
Une autre fois.
Oui, je l'ai là à l'écran en ce moment. Alors, Alexandra Strelitzky, dont la musique cumule 600 millions d'écoutes en ligne et lui a valu, on le sait, plusieurs albums certifiés or et platine, a raconté les origines de sa passion qui remonte à la petite enfance. Alors, à peine savait-elle parler qu'elle réclamait déjà un piano à ses parents. Une demande, par ailleurs, qu'elle a dû répéter jusqu'à ce qu'elle obtienne enfin l'instrument à 6 ans. Et ben, on le devine, elle ne l'a plus quitté depuis et a commencé à improviser très jeune, en fait, dès ses 12 ans. Son cursus de musique classique l'amène à la faculté de musique de l'UdeM, où elle parfait sa formation. Et après ses études, ben, elle s'oriente d'abord vers un travail musical en studio. Face à elle, Isabelle Peretz, spécialiste du cerveau musical et auteure de plus de 470 publications scientifiques à ce sujet, a confié être, comme d'autres pionniers de son domaine, une musicienne manquée. Mmh. Par ailleurs, passionnée par la musique, autant par la musique que par la science. Son intérêt pour le lien entre cerveau et musique, en fait, s'est manifesté dès ses études de maîtrise, lorsqu'un professeur lui a demandé de tester cette hypothèse. Ce qu'elle pensait être un simple projet, ben, s'est finalement transformé en vocation. Et parmi ses premières questions, si la musique est si importante pour nous, comment se fait-il que certaines personnes chantent faux? Alors, pour trouver une réponse, elle a envoyé un stagiaire extraverti dans un parc faire chanter 100 personnes. Leurs interprétations de Jean du Pays ou de Frère Jacques ont été ensuite analysées en laboratoire, un champ de recherche quasi inexploré à l'époque. un travail précurseur qui a été mené au Brahms, à la création du Brahms, soit le Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, que Mme Pérez a cofondé et qui contribue à faire de Montréal rien de moins que la capitale du cerveau musical.
Wow! Capitale du cerveau musical. Viens-t'en
oui,
à Montréal, c'est la capitale
hein?
du cerveau musical.
Wow! Mettons qu'on ne le met pas souvent à l'avant-scène, hein, ce titre-là. Les découvertes d'Isabelle Pérez et de son équipe sont fascinantes. Le cerveau musical se développe très tôt, même très, très, très tôt, Hélène, dès la vie in utero.
Oh, même quand à partir du moment où on devient un embryon.
C'est ça, exactement. Alors, des études par imagerie ont démontré que le cerveau des nouveau-nés réagit aux erreurs harmoniques, preuve que nous naissons tous avec une forme de compétence musicale. Deux découvertes majeures des 15 dernières années ont particulièrement marqué les recherches de Mme Pérez. D'abord, le lien entre la musique et la dopamine, qui confère à l'écoute musicale un rôle biologique essentiel. On le sait, la dopamine, hein, ça apporte le bonheur. Ensuite, l'aspect profondément social de la musique. Elle favorise la cohésion, voire l'altruisme. Des expériences ont montré que chanter ou bouger en rythme ensemble rend les participants plus enclins à s'entraider. Alexandra Strelitzky a abondé dans ce sens, soulignant l'importance du lien humain dans son métier et le rôle central du partage. Après une période de remise en question où elle ne se reconnaissait plus dans les conventions classiques, elle a choisi de replacer la musique au cœur de sa vie, en se mettant au service de sa création. Alors pour elle, jouer en public est devenu une manière d'apprivoiser sa peur. Alors même devant 80 000 personnes, un petit groupe quoi, elle s'efforce de s'adresser à une seule, créant ainsi une forme d'intimité avec chaque spectateur ou spectatrice. Le pouvoir de la musique s'est illustré à travers les témoignages de lecteurs et lectrices de la presse invités à exprimer leurs émotions à l'écoute de la musique d'Alexandra Strelitzky. Alors, on a deux témoignages. Marianne a témoigné matin du 30 novembre 2020. La nuit est encore noire. Première contraction. En pleine pandémie, sans cours prénataux, sans péridurale. Après plus de 18 heures de travail, je donne la vie. Trois choses me permettent de tenir. Le jus de pomme offert par l'infirmière, les points de pression dans le bas du dos, de mon dos, et la musique d'Alexandra. Son morceau, Burnout Fugue, est désormais à jamais lié à la naissance de ma fille. Pour Isabelle Pérez, ce récit illustre la manière dont la musique peut répondre spontanément à une détresse. On dit que 85% des gens écoutent de la musique pour se détendre. Une étude internationale menée durant la pandémie a d'ailleurs révélé que la musique était la première stratégie émotionnelle utilisée pour faire face à l'angoisse. On se rappelle des concerts sur les balcons, hein? Ça, c'était quand même impressionnant.
Oui, pendant la pandémie.
Oui, c'est ça. Scientifiquement, elle permet d'apaiser le stress et de réduire le taux de cortisol. Cela a été prouvé facilement grâce à des échantillons salivaires. D'autres témoignages évoquent l'effet calmant de la musique sur les enfants. Catherine Grégoire, directrice d'école, a ainsi déclaré utiliser les compositions d'Alexandra Strelitzky pour aider les élèves en difficulté émotionnelle à se recentrer et à nommer ce qu'ils ressentent. Isabelle Pérez explique cet apaisement par une forme de synchronisation physiologique avec la pulsation musicale, plus proche du rythme cardiaque. Pour Alexandra Strelitzky, la musique a longtemps été un échappatoire, un moyen d'apprivoiser ses émotions. Elle estime qu'elle aurait pu devenir dysfonctionnelle sans elle, tant elle lui a permis de se structurer. Sa pièce « Burnout Fugue », donc la même qui a été citée par Marianne lors de son accouchement, elle l'a écrite en pleine dépression pour traduire le tourbillon de voix qu'elle avait dans la tête. Savoir que d'autres ressentent la même chose en l'écoutant est pour elle extraordinaire. Cette conférence a montré que la musique était bien plus qu'un divertissement. Elle nous touche, nous organise, nous rassemble et parfois nous sauve. Un message porté par deux femmes qui en font leur vocation, bien sûr, chacune à leur manière. Et par hasard, Hélène, bon, je pense que je vous en ai déjà parlé, je suis abonnée à un bulletin, un newsletter en anglais qui s'appelle « Reason to be cheerful ». Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est que des bonnes nouvelles.
On aime ça. Et,
pardon?
On aime bien ça, avoir des bonnes nouvelles.
On aime bien ça et c'est des nouvelles qui sont recensées à travers le monde. C'est vraiment bien. Je vous invite à vous y abonner.
C'est en anglais?
Oui, c'est en anglais, oui. Reasons to be cheerful. Juste le titre, ça nous rend de bonne humeur. Alors, il y a un article qui nous disait que des études empiriques confirment que la musique est aussi efficace pour réduire et atténuer la douleur. On constate en effet que la musique peut réduire la perception de la douleur de 20%. Entre autres, on la met à l'épreuve. On met à l'épreuve cette théorie et cette application auprès de personnes souffrant de cancer. Dans cet article, on dit aussi que la musique est l'un des plus anciens outils de guérison de la planète que transcendent temps et cultures. J'ai trouvé ça très beau. Et il faut se rappeler que le dieu grec de la médecine, Apollon, ben il est aussi le dieu de la musique.
N'est-ce pas extraordinaire?
Oui.
Il a tous les talents, cet Apollon.
Oui, c'est ça. Et je terminerai en vous parlant de l'oreille absolue. Alors, un petit texte dans Epsilon nous relate que le neuroscientifique spécialisé en apprentissage perceptif, le monsieur Alan Wang, nous dit qu'on peut développer une oreille absolue. C'est pas vrai qu'on pense qu'on ne naît pas avec, on peut pas la développer. Il nous dit qu'on peut très bien, par exemple, apprendre une langue à l'âge adulte, même si c'est plus difficile que dans l'enfance. Mais il en va de même pour l'oreille absolue. Ah. Déployer toute la panoplie sur les 12 notes les plus difficiles au-delà de l'enfance, mais nous avons tous le potentiel nécessaire pour y parvenir. Il faut juste avoir le bon encadrement.
Alors, bien, j'aimerais bien qu'on aille un petit cours là pour savoir premièrement si on a l'oreille absolue et sinon comment développer l'oreille absolue.
Oui, alors j'imagine qu'il y a des applications en ligne là qu'on peut.
Ah oui, on trouve tout en ligne.
Oui, mais il faut faire attention maintenant.
Sauf un ami.
Pardon?
Non, j'allais dire, c'est parce que je faisais une espèce de parodie. Je faisais une parodie d'une certaine publicité de la pharmacie, mais c'est vrai qu'il y en a qui trouvent des amis, et même plus sur les réseaux sociaux, en ligne, etc. Vous parliez de Burnout Fugue. On va écouter un petit extrait.
Ah, super.
Merci, Monique. Fugue, c'était Alexandra Strelitzky à l'antenne de Canal M. Alors, on y va avec les brèves. Continuez avec vos protéines, cher Yvan.
Oui, puis je vais vous donner quelques trucs sur l'utilisation des protéines végétales pour en consommer davantage. C'est dans un article dans l'actualité du 22 octobre 2024 4 astuces pour manger plus de protéines végétales. Et sans le savoir, j'en ai essayé et ça me fait plaisir de vous en parler. Le premier truc, c'est ajouter des légumineuses à vos soupes. Mm-hmm. Les légumineuses comprennent les haricots noirs, rouges, etc., les lentilles vertes, corail et les pois chiches ou cassés. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Ils peuvent être chiches ou cassés.
Oui, ça peut s'appliquer à d'autres personnes dans d'autres circonstances. Elles sont vendues sèches ou en conserve, les deux options aussi riches en vitamines et minéraux l'une que l'autre. Une façon simple de manger plus de légumineuses est de les ajouter à ses soupes. C'est une excellente manière de rehausser le goût ainsi que la valeur nutritive de ces dernières. On peut s'inspirer de la sopa de frijoles. Excusez mon espagnol, que je parle pas espagnol. Donc, la sopa de frijoles mexicaine, oui. Une soupe traditionnellement composée de haricots, de tomates, d'épices et de piments chipotle. Et on peut utiliser ces légumineuses sèches dans les soupes parce qu'elles vont s'humidifier, oui, et
dans
gonfler.
Dans une minestrone.
Yassi.
Yassi.
En allemand et en italien.
Monique, on parle encore de musique. Vous nous parlez encore de musique.
Fixe,
hein? Oui, mais on aime ça. Oui. C'est un sujet qui est sans fin. Alors, la musique donne-t-elle envie de bouger même quand on ne l'aime pas?
Oui, c'est étonnant de penser qu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique.
Mais non, mais il y a des chansons qu'on déteste quand même.
Oui, il y a des chansons qu'on déteste, mais il semblerait qu'il y a des gens qui n'aiment pas la musique, Hélène. Mais peu importe le statut, il semble que c'est universel. Alors, il y a des psychologues de l'Université Concordia à Montréal qui viennent de démontrer qu'un bon groove, c'est-à-dire une bonne envie de danser, est vraiment irrépressible. Même pour ceux qui n'aiment pas la musique, car oui, il existe des gens qui n'éprouvent aucun plaisir à en écouter. Alors, en faisant entendre à 12 d'entre elles des morceaux couvrant toute une gamme d'harmonies et de rythmes, les psychologues ont constaté que leur envie de danser était aussi irrépressible que celle des autres, c'est-à-dire ceux qui aiment la musique. En particulier sur des rythmes ni trop simples, ni trop prévisibles, ni trop complexes, soit trop surprenants, mais juste ce qu'il faut. Alors, les chercheurs avancent l'explication suivante. L'envie de bouger et le plaisir qu'on éprouve à écouter quelque chose passent par des voies différentes dans le cerveau. La première, par les aires motrices. Le second, par le cortex auditif, dont on sait qu'il est moins connecté au centre du plaisir, chez ceux qui n'aiment pas la musique.
Ah.
On en sait un peu plus sur nos cerveaux, encore une fois.
C'est pas viscéral, c'est cervical. Faut se rappeler que Montréal, c'est la capitale du cerveau musical.
Oui, absolument.
Oui, cérébral, je dirais, plutôt que cervical.
Oui, merci.
C'est la clé de... Donc, d'autres façons d'augmenter les protéines végétales dans notre alimentation. Mélanger des lentilles à la viande hachée dans un pâté chinois ou une sauce à spaghetti.
Oui.
J'ai essayé ça, c'est vraiment bon.
Ou dans un burger.
Oui.
Dans la galette qu'on
fait. J'ai même vu des recettes où il n'y en a pas de viande hachée. C'est juste des lentilles. Mais
c'est bon?
C'est surprenamment bon. Vraiment.
Surprenamment bon.
Oui. On peut ajouter des noix hachées à nos céréales et à notre yogourt. On peut rôtir des pois chiches assaisonnés de paprika,
ouais,
pour la collation. Puis
c'est
là,
bon,
ça, c'est
ça.
Tellement facile d'en
comme
prendre.
Comme des chips.
Oui. Mettez du lait de soya dans vos smoothies. Du lait de soya, maintenant, c'est facile à trouver. Et découvrez les edamame, des fèves de soya vendues surgelées en Corse ou écossais. Les edamame s'ajoutent bien aux sautés, aux salades et aux soupes.
Dans les bols pokés, là.
Oui, dans
moi,
les bols pokés.
Moi, j'en demande toujours une portion extra.
Alors, c'est toutes des façons d'aller chercher des protéines végétales.
Wow, merci. Et vague de chaleur. On a moins faim quand il commence à faire très, très chaud, mais je ne sais pas de quoi vous voulez.
Si je peux me permettre une petite parenthèse,
oui,
par rapport... je dirais que associer, par exemple, des haricots avec de la viande, c'est peut-être pas un bon jumelage. Vaut mieux éviter de mélanger les deux, parce que c'est deux protéines, hein, mais qui sont en concurrence, puisqu'une est végétale et l'autre est animale.
Oui.
Bon. je ferme la parenthèse.
Mais là, vous êtes en train de dire que ce qu'Yvan a dit, c'est pas une bonne affaire?
Non, je dis que c'est bon les protéines, mais je dis qu'il faut pas mélanger une protéine végétale avec une protéine animale.
Ah, d'accord. Bon, oui. Alors c'est maintenant plus clair.
Oui.
Moi, ça alors, me prend deux fois pour comprendre.
Ben, c'est qu'on est habitué, de faire des mélanges parfois, des jumelages qui sont inappropriés. Alors, oui, vague de chaleur, on nous annonce, je pense, un été chaud et humide.
Mais on commence à y goûter déjà, là.
Oui, c'est ça. Alors, mais on sait que les vagues de chaleur et les canicules, c'est difficile et c'est même dangereux pour les aînés, les jeunes enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. C'est pourquoi Québec vient d'annoncer, Hélène, la mise en place d'un service pour alerter les citoyens les plus vulnérables par courriel, téléphone ou texto la veille d'un épisode de chaleur intense. Ce système s'appelle Conseil Climat. J'espère que ça marche mieux que SAC, là, mais en tout cas, offre aussi des recommandations pour mieux se protéger. Il est possible de s'y inscrire en composant le 1-866-982-7282 ou en créant un compte en ligne. Alors, pour créer le compte en ligne, vous tapez Conseil Climat dans votre moteur de recherche, ce qui vous amène sur le site du gouvernement du Québec et il y a un petit rectangle qui nous permet de nous inscrire.
Merci, Monique, pour toutes ces infos vraiment importantes. Donnez-nous encore le numéro, s'il vous plaît.
De téléphone, oui, bien sûr. C'est le 1-866-982-7282.
982-7282.
Et ça s'appelle Conseil au pluriel Climat.
Votre appel est important pour nous. Merci.
Oui, quand j'entends ça.
Yvan, une petite dernière.
La petite dernière, je ne l'avais pas prévue. C'est à cause de Monique.
À cause ou grâce?
Oui, grâce, sûrement. grâce non, à son sujet de chronique sur la musique.
Oui.
Vous, Hélène, vous avez déjà participé à des chorales, mm-hmm. moi aussi. Dans mon cas, je suis pas un bon chanteur. Je chante juste, mais dans un karaoké, il y a personne qui arrêterait pour m'écouter. C'est pas, j'ai pas une belle voix.
Ouais, ça, c'est vous qui le dites, hein?
Oui, je
vais vous entendre pour le dire.
Je le dis.
Officiellement.
Mais de participer dans une chorale où notre voix est un élément de plus à plusieurs autres voix.
C'est moins gênant.
Mais le phénomène qui me revenait quand j'écoutais Monique tantôt, c'est que au début, quand on apprend une pièce, on fait attention. Moi, je ne lis pas la musique, alors de regarder la partition pour voir...
Écouter la chanson, etc. Et sans arrêt.
Mais à un moment donné, on l'a appris. Et à un moment donné, on écoute. Et là, à un moment donné, on se dit, mon Dieu, je fais partie de ce qui est si beau à écouter. Alors, voilà.
Alors, vous êtes en train d'inviter les gens à s'inscrire à une chorale ou aller voir,
oui, c'est
entendre.
Oui, il y a plusieurs concerts de chorale. C'est la fin de la saison, tout ça. Ça vaut vraiment la peine.
Et il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles musicaux.
Oui, puis s'asseoir dans une église, c'est souvent dans des églises. Souvent dans une église, l'environnement est
aussi
beau.
C'est déjà apaisant. Voilà. Oui. Le pouvoir de la musique ou le pouvoir des chorales. Mm-hmm. Et en terminant de capsule linguistique avec vous, Monique, un mauvais conducteur mérite-t-il des points de démérite? Je pense que non. Oui, hein?
Je pense que non.
Peut-être qu'il mérite les points, mais ce ne sont pas des points de démérite.
Exactement, Hélène. En fait, démériter et démérite appartiennent essentiellement à la langue de la théologie.
Ah.
Et il est rare qu'on ait l'occasion de les employer dans la langue de tous les jours. Démériter, ça signifie agir de manière à encourir le blâme, et démérite est un synonyme de honte ou de faute.
Mmh.
Alors, disons simplement que point d'inaptitude et non point de démérite, ce sont les mauvais points que la police donne aux automobilistes pris en faute.
Bon, parce que quelquefois quand même, on a honte quand quelqu'un ment. Il te reste-tu des points? Mais non. Alors, oui. La bonne expression, c'est des points. Ce sont des points d'inaptitude.
Exactement.
Bien, merci pour toutes ces infos, encore une fois, bien pertinentes. Et ça a passé vite, encore une fois. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et profitez bien du week-end là, qui s'annonce beau et chaud, mais pas trop quand même. Il n'y aura pas de vague de chaleur à l'horizon, je ne pense pas.
Et on se reparle de tout ça jeudi prochain.
OK. À jeudi. Merci, Yvan Deslauriers. Merci, Monique Kerouac.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Merci d'écouter Au quotidien. C'est Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11h. À venir, la chronique Parasport en compagnie de Dominique Tremblay.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Merci beaucoup de le faire, d'ailleurs. Et on s'en va chez Dominique Tremblay. Bonjour, Dominique.
Bonjour, Hélène. Comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va bien. Et vous?
Très bien. Super. Le soleil, il fait chaud, du moins.
Oui, donc, oui, il fait chaud.
C'est toujours plaisant.
Il fait chaud. Alors, vous revenez, la semaine passée, vous en avez parlé, là, des Jeux paralympiques de Los Angeles, parce que vous êtes allé visiter les installations. Et aujourd'hui, vous nous parlez du Comité international paralympique qui a annoncé le nombre de médailles qui seront décernées lors de ces Jeux qui auront lieu, si je ne m'abuse, en 2028.
C'est en plein ça. Donc, il y aura un total... on va commencer par dire que le Comité international paralympique a à cœur la parité entre les hommes et les femmes. Donc, il va avoir 243 médailles qui vont être remises aux athlètes féminins, donc 44% du total des médailles. C'est une amélioration de 8 médailles de plus qu'à Paris en 2024. Le nombre de médailles pour les athlètes masculins a été 263. Il a été réduit de 8. Il y a aussi des compétitions mixtes, par exemple le tennis de table ou le double mix en tennis ou des sports de ce genre-là ou encore en équitation où c'est ouvert, la compétition a lieu que ce soit un homme ou une femme sur le cheval, c'est la même compétition. Donc, c'est dans une catégorie ouverte. Donc, il y aura 8% des médailles qui seront pour les athlètes en classe ouverte ou mixte, qui est une augmentation de 3 par rapport à Paris. Aussi, aux Jeux paralympiques, le total des athlètes et le maximum est de 4400 athlètes. On parle de 1967 athlètes féminins, 107 de plus qu'à Paris. Et on parle d'athlètes masculins. Ils vont être 2228 à Los Angeles, donc 27 de plus qu'à Paris. Et il y a aussi 205 places qui vont être disponibles où la Fédération internationale va décider lors de la sélection si cet athlète-là est féminin ou masculin pour un total de 22 sports. Mais il n'y a pas longtemps, le comité organisateur des Jeux paralympiques à Los Angeles a rajouté 23e sport, c'est l'escalade pour le para-escalade.
Ah,
il y aura
oui.
80 athlètes dans cette catégorie, donc 40 femmes et 40 hommes. Et il y a un total de 17 sports qui auront la parité chez les hommes et chez les femmes.
D'ailleurs, le comité organisateur a mis à jour son plan des sites de compétition.
Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que les comités organisateurs, lorsqu'ils présentent une soumission pour organiser les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, indiquent, nos sites de compétition pour tel ou tel sport, mais ça, c'est fait probablement 5 à 6 ans, même jusqu'à 7, avant la cérémonie d'ouverture. Donc, il se passe beaucoup de temps sur les choses. Les choses changent. Et là, présentement, c'est le plan final qui a été présenté aux médias cette semaine. Donc, c'est la première fois depuis les Jeux de Rio en 2016 où tous les athlètes vont participer à des compétitions dans la ville de Los Angeles ou les environs. Donc, le centre-ville de Los Angeles, bon, l'aréna des Lakers de Los Angeles et des Kings de Los Angeles dans la Ligue nationale de basketball ou la Ligue nationale de hockey, va recevoir le basketball en fauteuil roulant. Un des gros théâtres à Los Angeles, le théâtre Peacock, va recevoir les compétitions de goalball. L'athlétisme, j'en ai parlé la semaine dernière, va avoir lieu au Colisée Memorial. Donc, ça, c'est, il va recevoir les Jeux olympiques pour une troisième fois, mais c'est la première fois que ce stade-là va recevoir les Jeux paralympiques. Et aussi, le Centre des congrès de Los Angeles va recevoir plusieurs sports, dont le boccia, dont j'ai visité il y a à peu près une dizaine de jours. Mm-hmm. Il y a aussi la ville de Long Beach qui va recevoir plusieurs compétiteurs, dont Alamitos Beach, qui se trouve dans la ville de Long Beach, va recevoir le volleyball de plage et le football pour les athlètes avec une déficience visuelle. À Paris, c'était les deux mêmes sports qui étaient devant la Tour Eiffel. C'était très grandiose là, comme vue. Et donc, ils vont essayer de faire le même genre d'expérience avec la vue sur l'océan pour les compétitions de volleyball de plage et de football pour les personnes avec une déficience visuelle. Il y a aussi la ville de Carson qui va recevoir quelques sports. Il y a des stades d'ailleurs pour l'équipe de soccer qui est de LA Galaxy qui joue dans la Ligue majeure de soccer, la même ligue que le Montréal FC, l'ancien Impact. Donc, beaucoup de choses qui vont se dérouler dans la ville de Los Angeles en 2028 et ça risque d'être très intéressant.
C'est sûr. Et vous vouliez faire, Dominique, un retour sur les championnats du monde para-hockey qui se sont terminés samedi dernier.
Oui, c'est ça. À Buffalo, on avait dit que le Canada était le champion défendant de cette compétition-là. Je vais être positif dans ce que je vais dire. Le Canada a remporté la médaille d'argent et s'est qualifié pour les Jeux paralympiques de Milan et de Cortina. Malheureusement, je suis sûr qu'eux auraient bien aimé remporter la médaille d'or. C'est en finale contre les États-Unis, mais vraiment, les États-Unis ont dominé le match et ils ont gagné 6-1. Le Canada a réussi à compter seulement un but en fin de première période. L'attaque des États-Unis n'a pas arrêté là, durant les trois périodes. C'était vraiment un match à sens unique. Le seul avantage, c'est qu'il leur reste à peu près une dizaine de mois pour se préparer pour les Jeux paralympiques. Ils vont retourner à la table à dessin. Ils ont à table à dessin pour retravailler là, les stratégies. Le Canada va faire ça. Et on espère que pour les Jeux paralympiques, le Canada va pouvoir prendre sa revanche et gagner la médaille d'or paralympique.
On le souhaite évidemment. Et en terminant, une petite nouvelle de goalball.
Oui, c'est ça. C'est un sport spécifique pour les athlètes qui ont une déficience visuelle. Il y avait une compétition en Suède à Malmö et c'est la Coupe intercontinentale féminine. Le Canada a remporté la médaille de bronze en défaisant l'équipe américaine 5-2. Donc, le Canada en goalball a pris la revanche de l'équipe américaine pour venger peut-être la défaite de l'équipe canadienne en para-hockey.
Mais oui.
Très belle victoire. Oh, c'est ça. Donc, c'est intéressant. Et ça a été une très belle victoire. Là. Il y avait plusieurs joueuses qui étaient aux Jeux paralympiques de Paris, mais il y avait aussi deux nouvelles joueuses qui vont amener des points positifs pour les préparations pour les compétitions à Los Angeles en 2028.
Dominique Tremblay, merci beaucoup. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
J'ai pas pris le temps cette année de me demander si j'allais bien. Mes charmes y avancent encore, mon cœur bat fort, puis je stresse pas trop pour rien. J'ai 47 projets qui prennent leur forme, puis je dors quand même. 8-9 heures facile, c'est un peu débile, mais ça me sauve des problèmes, même si que je pense que ça va. C'est peut-être pas le cas, c'est quand qu'on se dit que ça va bien, que tout nous chie des mains. Fait que check ça de proche, pis pousse-toi pas trop loin. Écoute ton corps et puis ton âme, fais sûr que tout s'accorde ensemble, même si la vie va plus vite. Pas besoin de suivre un rythme sauf le tien. Demande-toi si ça va bien.
Et si ma santé était à son meilleur, j'ai mon huitième café, j'ai pas mangé, mais je maximise mes heures. Puis j'aime ça de même, même si des fois je cours après mon souffle. Si j'arrête pas, je m'en rends pas compte, jusqu'à temps que je mette mes pantoufles. Puis là, ouf, qu'aux journées, j'aurais peut-être dû m'écouter avant que le mal de coupon. Il faut que j'aille achaler mon chum. Fait que check ça proche, pousse-toi pas trop loin. Besoin de suivre un rythme sauf le tien. Entre-toi, ça va bien. Pas bien que tu cours partout en vain. Entre-toi, ça va bien. Pas bien que tu chioles après ton chien. Entre-toi, ça va bien. Pas bien que tu broies dans la douche pour absolument rien. Oh, demande-toi donc. Oh, demande-toi donc.
Ça va bien.
La chanson pour titre « Demande-toi si ça va bien » par René Ray, qui a reçu un prix au plus récent Gala Tréor. Julien Caillouette va nous en dire davantage sur ce gala qui a fait plusieurs gagnants en fin de chronique. Julien Caillouette, je vous rappelle, il est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Alors vous commencez par nous parler de Québec qui veut prioriser ses ententes avec la francophonie en milieu minoritaire.
Oui, on s'est intéressé à ça. Franco-Presse, le gouvernement a dévoilé son nouveau plan d'action à l'appui de la francophonie minoritaire canadienne pendant un événement à mobilité francophone là, qu'il y a eu à Montréal il y a environ 2 semaines. Il n'y a pas de grande surprise dedans. C'est surtout une continuité du plan de 2022-2025. Les priorités restent la culture, la recherche scientifique en français, l'économie, puis la découverte des contenus francophones, qui est un sujet aussi qui vole à ses propres ailes. Il y a du financement qui est disponible pour des activités, pour des événements de la francophonie canadienne quand il y a un aspect québécois qui est inclus dans le projet. Ça existait aussi avant. Par contre, le budget du plan est un peu diminué. En 2022-2025, le budget était de 7,5 à 8,5 millions de dollars par année. Mais pour les 3 prochaines années, c'est seulement 7 millions par année. Puis évidemment, c'est en raison du contexte budgétaire au Québec, là, à cause du déficit important. Mais on nous dit du côté du ministère que la réduction va du gouvernement, que la réduction va surtout être absorbée par les ministères et les départements. On nous assure qu'il n'y aura pas moins d'investissements dans les initiatives francophones.
Et on poursuit avec Capitaine Acadie, qui visitera l'île du Prince-Édouard cet automne. Qui est Capitaine Acadie?
C'est un super-héros de bande dessinée qui a été créé par Danny et Daniel Bouffard en 2019. Lui, c'est un super-héros, mais les bandes dessinées ne sont pas hyper sérieuses. Là. C'est un peu comique. Puis ses pouvoirs lui viennent d'une amulette magique qu'il a trouvée sur une plage à Shediac, au Nouveau-Brunswick. Ça lui donne des pouvoirs liés à l'histoire de l'Acadie. Par exemple, au lieu de se téléporter, il peut se déporter. Il a le pouvoir du tintamarre, qui est une espèce d'onde sonore. Son ennemi principal, c'est Utrecht, qui est le même nom que le traité où la France a cédé l'Acadie à la Grande-Bretagne, ce qui a mené à la déportation des Acadiens. Ça va être la 9e aventure de Capitaine Acadie. Ça va sortir cet automne. Puis, dans cette histoire, il va visiter, je pense, la première fois l'île du Prince-Édouard pour combattre des patates zombies.
Des patates zombies, c'est trop drôle.
Oui, puis on se rappelle que c'est l'île du Prince-Édouard, c'est le haut lieu de la culture de la pomme de terre au Canada. Donc, la bande dessinée va aussi inclure des éléments de réalité augmentée grâce à une application sur un téléphone. Donc, on pointe vers la bande dessinée, puis il y a des images qui vont ressortir ou des petites animations qu'on nous dit.
Ah, ça nous donne envie de découvrir cette histoire, ces BD autour du Capitaine Acadie. Mobilisation à Ottawa pour sauver les programmes du Collège La Cité, c'est dans le droit.
Oui, le Collège La Cité, c'est... qui est à Ottawa, c'est un des deux collèges francophones de l'Ontario. Puis ils ont récemment annoncé la suppression de 9 programmes d'études. Parmi ceux-là, il y a 3 qui sont jugés essentiels à la communauté francophone. C'est la formation de répartiteurs des services d'urgence, l'éducation spécialisée et le soutien aux personnes vivant avec des troubles développementaux, puis le seul programme de production visuelle en Ontario français, donc comme télé et cinéma, ce genre de choses-là. Jeudi de la semaine dernière, il y a un groupe de citoyens qui a organisé un rassemblement pour attirer l'attention sur cette situation-là et demander le maintien des programmes. Le gouvernement de l'Ontario est interpellé et a expliqué que, de son point de vue, les achalandages, puis la réduction du gouvernement fédéral du nombre d'étudiants étrangers qui vont être admis dans les écoles postsecondaires, a créé ces défis-là, défis financiers que le Collège de la Cité évoque pour justifier les coupes de programme, puis que les collèges et les universités doivent faire des choix difficiles à cause de ça. Mais la suppression du programme de production visuelle inquiète particulièrement parce que c'est la seule formation du genre en français à l'extérieur du Québec. Puis presque tous les francophones qui travaillent dans ce domaine-là au Canada sont passés par là. Fait que ça risque de créer un sérieux problème pour la relève dans le secteur francophone télévisuel du Canada dans les prochaines années si ça disparaît.
Oui, malheureusement, on espère que ça ne disparaisse pas, évidemment. Mais parlant de disparition, 140 ans d'histoire prennent fin à Sudbury?
Oui, parce que la congrégation catholique des Jésuites quitte la région après 140 ans de présence. Et on en parle, ça a été souligné dans la communauté parce que les Jésuites ont joué un rôle super fondateur, important dans l'établissement des francophones à Sudbury. Il restait 5 pères jésuites encore présents, puis ils vont aller à Midland, dans le centre de l'Ontario, au nord de Toronto. Il y en a d'autres qui vont rester dans la région, sur l'île Manitoulin, pour continuer à travailler avec les autres. Mais pour la petite histoire, les jésuites sont arrivés dans la région en 1881, alors que c'était juste un campement du Canadien Pacifique pour la construction du chemin de fer. Ils ont décidé de s'installer ici, puis ils ont fondé... une paroisse, qui me permet de vous rappeler que la première paroisse de Sudbury, c'était une paroisse francophone qui s'appelait Saint-Anne-des-Pins. En 1913, ils ont construit, ils ont établi le Collège Sacré-Cœur, qui est devenu plus tard l'Université de Sudbury. Le Collège Sacré-Cœur joue un rôle essentiel aussi dans l'éducation des francophones. Ils ont formé ceux qui sont devenus les médecins, les avocats, les dentistes, les enseignants et les hommes d'affaires de la communauté francophone du Moyen-Nord ici. Puis, c'est aussi eux qui ont invité les Sœurs Grises à venir fonder le premier hôpital à Sudbury. Puis, ils ont aussi joué un rôle dans l'établissement de plusieurs institutions francophones.
Et puis, maintenant, Julien, vous poursuivez avec une nouvelle tirée de La Liberté concernant le financement des universités. On y revient.
On parle encore d'éducation. La Liberté a examiné le financement des universités au Manitoba. On rappelle qu'à la fin des années 80, environ 85 % des budgets universitaires provenaient des gouvernements provinciaux. Le reste, c'était les frais de scolarité. En 2012-2013, c'était seulement 55 % du financement qui venait du gouvernement. Et en 2022-2023, c'est tombé à 40 % alors, en moyenne. Ce n'est pas pour chaque université. Le président de l'Association canadienne des professeurs d'université note qu'il est difficile de parler d'éducation publique quand moins de 50 % du financement vient de fonds publics. À l'Université de Saint-Boniface, on précise que c'est maintenant 51 % du budget actuel qui provient du gouvernement. La rectrice Sophie Bouffard souligne que leur pouvoir d'achat a diminué en disant le financement a augmenté de 10,5 % alors que l'inflation de tout ce qu'on a besoin de payer a augmenté de 25,5 %. Il y a eu une bonne différence.
Oui.
Pour compenser, les frais de scolarité augmentent, surtout pour les étudiants étrangers. Puis le président de l'association de professeurs et la rectrice estime que c'est le temps de réviser le mode de financement des universités.
Et on va terminer avec le Galaterie Or.
Oui, il y a 18 musiciens franco-canadiens, pardon, il y a des franco-ontariens là-dedans, qui ont été honorés la semaine dernière par ce gala qui est organisé tous les deux ans par l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. Puis, comme je vous dis, ça couvre principalement l'Ontario et l'Ouest du Canada. Cette année, c'est le franco-ontarien Marc-Antoine Joly qui est reparti avec le plus de trophées. Il y en a eu 4, notamment pour le meilleur album rock, metal, punk et l'initiative artistique pour un balado qui a fait avec un compère. Le nom du balado, c'est « De quoi tu parles d'eux ». Expression bien, bien consacrée en Ontario français.
Ah oui? De quoi tu parles d'eux?
Oui, oui, oui. Ouais, c'est une traduction de « What are you talking about?
Ouais. »
On finit toujours avec un 2. Il y a aussi le duo Beau Nectar, qui est composé d'une Françaisoise et d'une Franco-Ontarienne, qui a remporté 2 trophées pour meilleur groupe et artiste pop. De Flore, un autre duo franco-ontarien, a gagné 2 prix. Puis le Françaisois Étienne Fletcher a été récompensé pour par le prix meilleur vidéo clip pour sa chanson « Jeu de mémoire ». Et comme l'artiste de l'Ouest qui était le plus présent à l'extérieur de sa région.
Ah oui, qui a un grand talent, c'est Étienne Fletcher.
Vous le connaissez bien au Québec déjà. Mm-hmm. Vous avez présenté la chanson de René Ré.
Elle, on la connaît moins.
Nous, on la connaît bien ici dans notre région parce qu'elle vient du nord de l'Ontario. Justement, elle vient de Timmins, si ma mémoire est bonne. Puis,
qu'est-ce qu'elle a reçu?
Le prix convoité du coup de cœur du public.
Ah, ça, c'est un prix qui fait chaud au cœur, j'imagine, pour un artiste.
Effectivement. Puis, pour nommer quelques autres gagnants rapides, il y a Mimi Obanslawin, qui vient aussi de la région ici, qui vient de Sudbury, qui a été nommée meilleure artiste solo. Mehdi Kayen de Toronto a gagné le prix pour le meilleur album, pour son album Animal Chic. Dans l'Ouest, c'est le duo Beau Séjour qui a remporté le prix Country. Puis enfin, Pontex, de son vrai nom Mario Lepage, Françaisois aussi, a décroché le prestigieux prix de la meilleure chanson pour sa chanson Saint-Denis.
Ah oui, une chanson merveilleuse. Et la semaine dernière, Julien, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute de Canal M, mais j'ai eu le plaisir de parler avec Michel Lalonde, chanteur du groupe Garoulou, parce que Garoulou a été hommagé, comme le dirait si bien Michel Rivard, au Tréor. Et on va se laisser justement avec cette chanson, pas de Garoulou, parce qu'on a écouté pas mal la semaine passée, mais Saint-Denis, meilleure chanson... qui a décroché le prestigieux prix de la meilleure chanson au Tréor de la semaine dernière, 2025, hein, c'est comme ça qu'on peut le dire.
Oui.
Pontex, et puis on va servir la chanson en duo avec Louis-Jean Cormier. Et ils forment vraiment une belle paire. C'est deux voix qui se marient vraiment bien. Merci beaucoup, Julien.
Avec plaisir.
À la semaine prochaine.
Quel sommet, je m'ennuie. Dis-moi qu'est-ce qu'on gagne à quitter sa maison pour connaître son pays. J'ai visé la grande ville, j'ai laissé ma prairie. Tout me semblait plus facile ici. Promise land, mais depuis je me démène rue Saint-Denis.
Jean Cormier et Pontex qui chantaient Saint-Denis.
Oui, Pontex qui a décroché le prix de la meilleure chanson au Galaterie Or 2025. On lui dit encore une fois, félicitations. C'est la Journée mondiale de l'environnement, conduite par le Programme des Nations unies pour l'environnement et organisée chaque année le 5 juin depuis 1973. La Journée mondiale de l'environnement est la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation du public à l'environnement et est célébrée par des millions de personnes à travers le monde. Pour la deuxième fois, la République de Corée accueille la Journée mondiale de l'environnement et mène les efforts pour réduire la pollution plastique grâce à une stratégie globale couvrant tout le cycle de vie des plastiques, impliquant le gouvernement, les entreprises et les consommateurs. Cette année, le lieu hôte, la province autonome spéciale de Jeju, s'est fixé un objectif ambitieux, éliminer la pollution plastique d'ici 2040. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, dont la moitié est conçue pour n'être utilisée qu'une seule fois. Moins de 10 % de ce plastique est recyclé. On estime que 11 millions de tonnes de plastique finissent dans les lacs, les fleuves et les océans chaque année. Aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, d'avoir été là. Et je vous retrouve, j'espère bien, la semaine prochaine. Demain est un autre jour. Oui. Et puis, je serai là donc lundi prochain, comptez 9h30. Merci, Mathieu Tessier, pour tout. À bientôt.